Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est le moment de l'interview, une émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc-en-Diwa. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme Cochet. Bonjour.
Bonjour.
Jérôme Cochet, tu es ici pour nous annoncer la venue de la compagnie Les Non-Alignés et qui propose un spectacle Mort d'une montagne. Un spectacle qui sera donné sur 4 dates sur le Diwa et en environ, et à commencer par ce mercredi, donc hier 14, à Luz-la-Croix-Haute, et puis le 15 ce soir, donc à Valdrome, le 16 sur le col, après le col de Rousset à Saint-Aignan, et le CLAPS le 17 à Luc-en-Diwa.
Tout à fait.
On indiquerait les heures peut-être, c'est à peu près à quelle
heure ? C'est à 18h30 tous les soirs, sauf la première, mais qui est déjà passée a priori à Luz. Donc c'est 18h30.
La compagnie des non-alignés donc, existe depuis 2015. Elle a à son actif une dizaine de spectacles, de créations. Et on peut peut-être présenter ce qu'est cette compagnie et sa philosophie même.
On est une compagnie de théâtre, donc on fait vraiment des pièces de texte en général. Fondée en 2015, la compagnie est basée à Lyon, mais on est pas mal de membres dans la compagnie à être dans les Alpes et dans les environs, notamment plusieurs personnes dans le Diwa. Il y a 3 personnes qui sont à Die et alentour. Et avec des spectacles, on va dire, avec des thèmes qui peuvent varier au fur et à mesure des créations, mais quand même un axe sur la montagne, sur toute une partie des projets. Et là, ça fait déjà 3 ou 4 projets autour de cet univers qu'on fait. Mort d'une montagne, c'est vraiment une pièce qui parle de montagne, qui est faite par des gens en partie qui viennent de la montagne et voilà, qui plongent dans cet univers-là.
Et qu'est-ce que représente cette montagne pour la plupart d'entre vous ?
C'est un lieu de vie pour une partie de la compagnie, donc des gens basés à Die, à Grenoble et environ. Et puis c'est aussi un terrain d'enquête et de travail depuis 2017-2018 à peu près, où on a été accueillis dans divers coins des Alpes, notamment dans le massif de Belledonne, dans les Écrins, dans le Vercors. Et on a déployé toute une facette de l'activité artistique de la compagnie sur des résidences de territoire, dans des villages, à enquêter auprès des habitants, des acteurs du territoire, des usagers de la montagne. Et c'est vraiment devenu quelque chose d'assez structurant dans notre travail. Donc ça représente franchement, on pourrait dire, un des cœurs de notre activité.
Et donc, à partir de cette notion de montagne, vous écrivez, vous créez votre propre spectacle, c'est-à-dire vous écrivez les dialogues, qui participe à l'écriture ?
Alors ça dépend des projets, on a fait des projets très collectifs, très documentés, très documentaires dans le rendu, où on était vraiment en exploration dans un coin des Alpes. Par exemple, je parlais du massif de Belledonne à l'instant, on a été là-bas en résidence pendant plusieurs semaines, à écouter, recueillir des paroles et à créer du théâtre à partir de ça. Donc là, c'était vraiment des formes très collectives avec toute une équipe d'acteurs et d'actrices qui restituaient un petit peu ce qu'ils avaient vécu sur le terrain. Là, avec la pièce qui nous intéresse, Mort d'une montagne, on est sur une deuxième étape de notre travail de création où on a vraiment essayé d'écrire une pièce de fiction, donc une histoire d'aventure, une histoire avec des personnages, des situations, des péripéties. Et là, on a été 2 auteurs à écrire la pièce, donc François Yen et moi-même. On a été invités par le Festival de l'Arpenteur, qui est une structure culturelle en Belledonne aussi, à écrire en 2020-2021. Et on a été comme ça à 4 mains, tous les 2 sur le terrain, à petit à petit écrire des chapitres, écrire et composer une histoire. Donc oui, effectivement, des thèmes, des dialogues qui vont mettre un petit peu nos personnages les uns avec les autres. Et puis à déployer un fil scénaristique vraiment de fiction qui nous amène à une histoire complète en montagne et à une pièce de 2 heures.
Les intrigues qui donnent le fil de vos spectacles, est-il inspiré aussi de l'actualité ?
Alors oui, on pourrait dire ça. Donc Mort d'une montagne, c'est une pièce qu'on a écrite à partir d'un phénomène qui existe de plus en plus dans les Alpes, qui est l'effondrement des grandes parois rocheuses. avec un petit peu les mutations du climat. Il y a ce qu'on appelle le pergélisol, le permafrost, donc le gel en haute profondeur dans la montagne en haute altitude qui se met à fondre. Et on assiste depuis quelques années à des grands, grands effondrements dans les faces mythiques des Alpes. Il y a eu au Grand Jorasse, au Dru, à la Meije. Et on était justement sur le terrain, dans le massif des Écrins, près de la Meije en 2018, quand il y a une partie de la montagne qui s'est effondrée. Et on était au refuge, il n'y avait plus personne ne pouvait aller en montagne. C'était une situation un peu apocalyptique, comme ça, avec tout qui était fermé. La montagne dont on ne savait pas trop si ça allait continuer à s'effondrer ou pas. Et présent sur place, on s'est dit, tiens, là, il y a un fil d'histoire à saisir, à tirer, à dérouler. Et on s'est inspiré de cette actualité-là, à ce moment-là, pour lancer l'écriture de Mort d'une montagne. C'est pour ça que la pièce s'appelle Mort d'une montagne, qui est un peu un clin d'œil, puisqu'on imagine que les montagnes, c'est des formations géologiques, ça ne peut pas mourir. Et ben, quand on les voit s'effondrer devant nous, quand on voit tomber une paroi mythique avec laquelle on a grandi, sur laquelle on a fait des courses d'alpinisme, qu'on a connue depuis des années, ben, c'est une petite mort aussi, c'est assister à la mort d'un paysage, la mort d'un panorama, la mort d'un monde, quelque part. Et voilà, c'est ça qui a lancé l'écriture de ce spectacle en particulier.
Vous dites avoir assisté, ou du moins être proche de cet effondrement en 2018. Est-ce que vous en avez perçu le son, la vibration ?
Alors pas directement, nous on est arrivé après l'effondrement, après l'éboulement, les grands éboulements où une partie d'une face est tombée. Donc non, on n'a pas directement été confronté à des éboulements en direct. Après, là, il suffit d'aller dans les Alpes l'été et puis c'est rare qu'on n'entende pas des pierres tomber, quoi. On peut être dans un refuge quelque part et on entend des sons sourds d'un seul coup. Le soir, on voit un panache de fumée au loin et ça c'est quasiment toutes les semaines que ça se produit, des choses comme ça l'été dans les Alpes maintenant.
Vous êtes 5 sur scène ?
4.
4. Là, je vois 5 noms mentionnés. Hein,
oui, on est 5 personnes à jouer, mais on ne joue pas tous en même temps. Il y a notamment le rôle du guide. Donc, la pièce, ça suit l'histoire d'une fratrie en montagne. Donc, il y a 3 frères et sœurs. Pierre, qui est guide de haute montagne, sa sœur Fanny, qui est gardienne de refuge, leur frère Benjamin, qui est chargé de transition dans le massif, qui travaille pour le parc. Et puis, une cliente qui vient pour faire une course dans le massif des Hautes-Aix, qui est le lieu fictif où se déroule l'histoire. Donc 4 personnages, et un des personnages, donc Pierre, est joué par 2 acteurs. Suivant les représentations, c'est soit moi, soit mon collègue Martin qui joue. Parce que moi, je suis aussi à la mise en scène, j'ai écrit le texte, donc je ne joue pas toutes les dates, donc on se les partage. 4 personnes à chaque fois.
Donc toi, étant l'auteur...
Ouais, co-auteur, on était 2 à écrire. Ouais.
Avec François Yen, c'est
François Yen, voilà.
Et comment s'élabore l'écriture ? Vous avez perçu quantité d'informations, de faits peut-être, et d'amener aussi le dialogue dans ces propositions ?
Bah, l'écriture, oui. En fait, il y avait donc un thème d'entrée qui était ces grands effondrements en montagne, un univers d'entrée qui était le monde de l'alpinisme, le monde des expéditions, des refuges, des guides. Et à partir de cette envie de faire projet, on a élaboré un petit peu une cartographie dans le massif de qui on pouvait rencontrer, qui pouvait nous parler de tout ça. Donc on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde, des gens très, très proches des thématiques. Et on avait après une énorme matière documentaire. Et petit à petit, en fonction de ce qu'on avait recueilli, on commençait à écrire des morceaux de scène à 2, comme ça, à se dire, tiens, il faudrait écrire une scène où il y a tel type de personnage qui rencontre tel type de personnage, un guide peut-être, un gardien, un alpiniste, un berger, etc. Mais voilà, sans trop savoir encore quel fil on tirait, mais en écrivant comme ça des fragments petit à petit. Et puis très vite, en allant les jouer devant les gens qui nous avaient donné des interviews, des entretiens, et à essayer de comprendre avec les gens qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui faisait sens, et petit à petit, comme ça, dégager des grandes lignes de scénario. Et d'un seul coup, tiens, le gardien, c'est plus un gardien, c'est une gardienne. Tiens, la gardienne, c'est la sœur du guide. Tiens, la cliente, elle arrive au milieu d'une fratrie et dans une histoire qui se passe déjà, qui est déjà en cours à son arrivée. Et petit à petit, comme ça, dérouler des personnages qui commencent à émerger de la matière documentaire avec un peu leur caractère, leurs objectifs, leurs enjeux, et les faire se rencontrer. Donc effectivement, là, à ce moment-là, arrivent les dialogues, c'est-à-dire que la matière documentaire se mue en dialogue de fiction avec des gens qui ont des choses à se dire, qui ont des conflits, des choses à se raconter, des enjeux à partager, à disputer. Et petit à petit, les scènes dialoguées arrivent, les monologues arrivent, et tout ça se met bout à bout et se dégage des grands épisodes. et un épisode en amène un autre, et puis l'histoire comme ça se déploie sous nos yeux petit à petit, et après on remet tout par terre, on relance de l'écriture, et voilà, il y a une espèce de charpente qui se construit morceau après morceau, jusqu'à ce qu'on ait enfin une espèce de vision de ce que doit être le spectacle. À ce moment-là, on reprend tout, et puis on coupe, on modifie, et puis on arrive à l'objet fini. Mais c'est des semaines de travail avec des étapes, des retours en arrière, des avancées, des coupes, des choses qui disparaissent, qui reviennent. Enfin, voilà, c'est pas du tout linéaire comme processus.
Sur le recueil des témoignages que vous avez opéré auprès des habitants ou des personnes vivant aux abords des montagnes, est-ce que vous avez pu percevoir le sentiment général sur cet état de fait de ces effondrements de montagnes ?
Il y a des approches, des sentiments, des ressentis très très différents. Des gens qui vont être marqués par la disparition de telles voies qu'ils ont faites tout petits et qui d'un seul coup est un symbole de leur vie en montagne qui disparaît. Il y a des gens qui sont plus dans aller de l'avant et trouver des solutions pour s'adapter à des changements. C'est-à-dire on ne peut plus faire telle voie. Alors c'est pas que les effondrements, des fois c'est la neige qui disparaît et qui rend une voie très dangereuse et qui fait qu'on ne peut plus la pratiquer. Donc comment on s'adapte ? On la fait plutôt dans la saison, on la remplace par un autre itinéraire. Il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles parce qu'ils ont moins conscience de ça. Donc en fait, il y a tout un panel aussi de gens qui vivent avec ça ou autour de ça et qui ont une compréhension des phénomènes, un lien à ces phénomènes et qui sont plus ou moins touchés. Et ça fait toute une complexité de vécu. Les stations de ski qui tentent de développer les canons à neige pour tenir le coup, certaines qui choisissent d'abandonner ou de reconvertir leur activité, enfin... En fait, on a été confronté, une fois tiré ce thème-là et ces enjeux-là de transformation de la montagne, de mutation finalement, avec ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, eh ben, on rencontre pléthore de gens qui sont confrontés à quelque chose qui ne va plus se passer comme avant, qui évolue, qui est autre chose. Eh ben, ça, forcément, c'est passionnant parce qu'il y a mille façons d'aborder les problématiques, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui trouvent des solutions, des gens qui n'en trouvent pas, Donc on a plongé là-dedans pour écrire la pièce. Et la pièce se veut être aussi une espèce de condensé de tout ça. C'est une histoire d'alpinisme, une histoire d'aventure, avec plein de choses qui arrivent au personnage, mais c'est aussi une espèce de condensé de tous les enjeux qui concernent la montagne aujourd'hui, que ce soit la haute montagne ou la moyenne montagne. Et la pièce donne un peu des clés de compréhension pendant les 2 heures que dure le spectacle. On est transporté en montagne, mais on perçoit aussi un petit peu la complexité des enjeux qui la concernent.
Vous parlez d'aventure, donc de péripéties également. Comment transparaît justement ces aventures sur la scène ? Est-ce qu'il y a un jeu de texte ? Il y a aussi une participation physique des comédiens ?
Alors, nous, on fait vraiment du théâtre à texte. Donc, la plupart de ce qui se passe en termes d'aventure, c'est contenu dans le texte comme ce serait contenu dans un roman. C'est-à-dire que les personnages, ils vivent des aventures, mais ils ne les miment pas. On ne va pas voir des gens qui font semblant d'escalader. Nous, on n'est pas tout à fait dans cet univers visuel-là, puisqu'on vient vraiment du texte, on vient beaucoup moins du théâtre corporel, quelque part. Donc, c'est vraiment dans le verbe, dans les mots que ça se passe, dans les dialogues. Et au contraire, on est sur un théâtre extrêmement économe en effet, où en fait raconter la traversée, un monologue bien écrit à un moment suffit à embarquer dans la montagne et à nous faire voir tous les paysages, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles à représenter sur une scène de théâtre, un orage en montagne avec des gens qui grimpent dessous, avec des cordes, du matériel, c'est quasiment impossible à représenter, sauf à avoir des énormes moyens. Là, on joue dans des versions plein air dans le Diwa en ce moment, et on est justement sur une grande, grande économie de moyens physiques et de moyens de décor. Donc, c'est vraiment au texte et au récit que ça se passe.
L'histoire se passe dans un massif imaginaire, les Hautes-Aigues,
oui,
où le village de Rochebrune est en alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers. Et pourquoi cet aspect peut-être imaginaire de cette ville qui n'existe pas, semble-t-il ?
Alors nous, on voulait écrire une histoire qui soit très très plausible, très très véridique, mais c'est toujours difficile de venir écrire sur un endroit en particulier, puisque forcément on n'aura pas rencontré tout le monde à cet endroit-là dans les interviews, on n'aura pas la connaissance extrêmement fine de ce qu'on dit, donc on peut toujours se planter, commettre des erreurs, être maladroit sur des choses. Le décalage dans la fiction, il autorise beaucoup plus de choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'inspirer très très fort de lieux, de personnes réelles, mais la fiction autorise aussi à mêler des choses documentées à des choses qu'on a inventées nous, et ça nous permet à la fois de créer des situations, des dialogues qui vont parler à des gens dont ils vont se dire que ça doit exister vraiment, Mais comme elles ne sont pas situées géographiquement dans un lieu existant, ça nous laisse de la liberté d'écriture et ça pourrait être partout finalement. Donc ça devient beaucoup plus universel et c'est là qu'on déploie encore plus de récits imaginables. Ça nous autorise, nous auteurs, à mettre des choses qu'on avait envie de mettre et qu'on n'aurait pas pu forcément mettre si on était dans un cadre, dans un pacte de réalité avec du documentaire pur. Donc voilà, ça autorise beaucoup plus de choses, ça permet aux spectateurs de se projeter de manière beaucoup plus libre n'importe où. Et finalement, c'est là peut-être que dans ce qu'on voulait écrire, le théâtre existe le mieux.
En sortant de cette représentation de Mort d'une montagne, quelles sont les questions qu'on peut s'amener à se poser? Quelles sont les remises en question? Ce que je veux dire, est-ce que ça laisse penser à un changement de société, un changement de vie, de bouleversement?
Alors ça, chacun fera sa cuisine avec ce qu'il aura vu sur scène. Moi, nous, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que les gens passent une bonne soirée déjà au spectacle, qu'on vive vraiment... On a beaucoup parlé d'enjeux un peu dramatiques, mais c'est une pièce joyeuse, une pièce, je l'ai beaucoup dit, mais une pièce d'aventure vraiment, où on vient assister à... On regarde cette pièce comme une série télé, et on en sort normalement joyeux, plein d'énergie. Pour autant, effectivement, il y a des thématiques complexes, des thématiques d'actualité. Moi, j'ai voulu vraiment écrire une pièce qui traite, je ne sais pas ce qu'on en conclura à la fin, mais qui traite de la question du renoncement en montagne, et puis dans la vie au sens plus large, et de à quoi on est prêt à renoncer pour rester en vie, pour garder des conditions de vie acceptables, pour sauver sa peau parfois. Et les personnages sont tous confrontés à leur endroit à cette question de devoir renoncer à quelque chose à laquelle ils tenaient très fort au début de la pièce. Ils vont tous faire un parcours là-dedans. Chacun, chacune aura sa conclusion à lui et à elle. Et je pense que c'est un petit peu là-dedans qu'on peut se projeter à la sortie de la salle, en tout cas en se disant « Tiens, comment je me positionne par rapport à la traversée et à l'évolution qu'ont fait les personnages dans la pièce. C'est souvent quelque chose qui est peu abordé dans les histoires de montagne, c'est renoncer au sommet et ne pas aller au bout de la course. On a souvent des histoires d'aventure où le but c'est coûte que coûte, aller tout en haut, gagner, planter le drapeau, être le premier, être le plus rapide. Et justement, on est passé par un autre biais dans cette pièce et on regarde un petit peu ailleurs, avec un autre angle. Je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse à transmettre aux gens qui auront vu le spectacle.
Pour précision, ces spectacles se situent sur des lieux montagneux.
Oui.
Ils sont même le décor.
C'est-à-dire
Par exemple, au Claps, à Luc en Divois.
Ah oui, effectivement. Alors, du coup, ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une pièce de théâtre qu'on joue dans des théâtres fermés, dans des salles, avec du décor, de la lumière, du son, de la vidéo. Il y a tout un travail technique qui a été réalisé par les créateurs et créatrices du spectacle qui permet de vraiment être immergé dans la montagne. On entend le son des effondrements, on entend le son de la glace, de la neige, des rocs. On voit tout un travail de vidéo qui permet de voir se déployer des images sur la scénographie. Là, on joue dans le Diwa dans une version beaucoup plus légère, en plein air, en montagne. Et on parlait du Claps, par exemple. Effectivement, d'un seul coup, on choisit des lieux où le panorama et l'atmosphère ambiante suffisent à faire décor. C'est-à-dire qu'effectivement, on enlève tout le décor. Il n'y a quasiment plus rien, il n'y a que quelques accessoires. Mais on est face à un décor naturel qui permet de plonger dans la pièce et qui se suffit à lui-même. Donc effectivement, des lieux montagneux, le Clap c'est un super exemple parce que justement on va jouer au pied des blocs avec la dalle derrière. Et d'un seul coup, là le texte suffit, il n'y a plus besoin d'aucun artifice quelque part. On est dehors, on est le soir et puis on écoute l'histoire tous ensemble et on se laisse transporter.
Justement, est-ce qu'il existe des choix, des sites similaires aussi sur ces aspects d'effondrement tels que Luc en Divoa? Et les choix que vous opérez, que ce soit Alus, la Croix-Haute, Valdrome ou Saint-Agnan, c'est identique aussi cette démarche?
Effectivement, le Claps, c'est vraiment un site d'éboulement, d'effondrement rocheux, donc qui marche bien avec la pièce. Mais ce n'est pas nécessairement toujours dans des paysages de rochers effondrés ou tombés que se joue le spectacle. À Saint-Agnan, à Valdrome et à Alus, ça va être très différent, mais on va avoir à chaque fois le cadre des montagnes avec des coins très différents. On sait qu'à Valdrome, on est sous une ancienne station de ski qui a fermé. À Luz, on est devant les montagnes du Dévoluy. À Saint-Agnan, on est sur le plateau. Il y a aussi dans la pièce toutes les autres problématiques de la montagne qui sont abordées, la question des bergers, des éleveurs, donc qui sont très prégnantes sur le plateau du Vercors. Donc en fait, chaque endroit va amener son atmosphère et il n'y a pas forcément besoin d'être devant des gros blocs de pierre pour que ça marche. Pour autant, oui, on a joué dans plein de coins où il y avait eu comme ça des effondrements. On jouait au pied de parois semi-tombées. Ouais, c'est toujours assez beau de jouer devant des falaises assez fort.
Sur le programme est notifié Jérémy Houry pour la vidéo. En quoi intervient-elle?
Alors là, elle n'interviendra pas, Adi. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a un travail de vidéo qui se mêle avec le travail de notre scénographe Caroline Frachet qui a composé une grande toile peinte qui constitue le fond de scène quand on joue dans les théâtres et qui se mêle aussi à la lumière de Nolwenn Delcanris qui habille tout ça. Et il y a un jeu de vidéo, de lumière et de scénographie qui fait que sur les plateaux de théâtre, là où on n'a pas le décor de montagne dont je parlais à l'instant, on peut recomposer un univers visuel avec leur travail technique. Donc on voit des paysages qui apparaissent, qui disparaissent, des ambiances pour chacune des scènes qui évoluent à l'arrière-plan du plateau. Là, il ne sera pas question de ça, puisqu'on sera dans un cadre unique du décor naturel, Adi. Donc si on veut en voir plus, après on peut revenir voir la pièce au théâtre. L'année prochaine, on a plein de dates dans plein de coins. Alors pas Adi, mais dans les environs plus ou moins proches de la région, il y aura plein d'occasions.
On peut peut-être présenter aussi les comédiens qui seront sur scène.
Bien sûr.
Alors Stéphane Rothenberg,
ouais.
Camille Roy, Fabienne Courvoisier et Jérôme Cochet
et Martin Sèvres.
Voilà. Alors ils sont présents depuis le début de la compagnie, ces comédiens.
Alors pas forcément depuis le début de la compagnie, qui est assez ancienne maintenant, mais depuis le début de ce projet-là et des projets en montagne, oui, quasiment toutes et tous. C'est des rencontres qu'on a fait au fur et à mesure des années. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, on a eu tout un processus d'écriture en territoire, en enquête. Et très vite, on était deux à écrire avec François, le co-auteur de la pièce. On s'est rendu compte qu'on avait envie de commencer à avoir des voix, des corps qui se mettaient sur ce qu'on écrivait. Donc, on a invité du monde, ces personnes-là, à venir lire des extraits avec nous. Et petit à petit, ils sont rentrés dans l'équipe. Et les extraits de personnages qu'on avait écrits pour eux, ils les ont lus. Et puis, quelque part, après, ça devenait évident qu'ils étaient devenus les personnages. Donc, on écrivait plus dans l'abstraction, mais on écrivait directement pour les interprètes dont on savait qu'ils allaient interpréter les rôles qu'on écrivait. Donc, après, c'était parti, quoi.
Sur le site de la compagnie Les Non-Alignés, il y a une photo de groupe. On peut compter 24 personnes. Est-ce que ça représente l'équipe de cette compagnie?
Oui, il y a effectivement une photo où on voit l'équipe élargie. L'année dernière, on est plusieurs porteurs et porteuses de projets dans la compagnie. On est au gré des projets de 5 à 10 personnes à peu près. Et effectivement, l'année dernière, on a fait un gros festival où on s'est retrouvé avec tous les membres de la compagnie, toutes les personnes qui gravitent autour des projets. Et oui, alors tu as compté 24 personnes, tu les as comptées un par un, bravo. Ça doit être à peu près ça. Je ne dirais pas qu'il y avait forcément tout le monde, je pense qu'il manquait un petit peu des gens, mais... On n'est pas loin de ça, ouais.
Une équipe relativement jeune, d'ailleurs.
Eh ben, ouais, plus tellement maintenant.
C'est une équipe qui s'est constituée au départ. Vous vous êtes retrouvés donc à Lyon. C'était au sortir d'une formation de théâtre.
Ouais, il y a eu une partie de l'équipe qui venait de l'ENSAT, donc une école de théâtre à Lyon. Ça, c'était en 2015, donc ça fait déjà 8 ans. Ça a fait un petit noyau qui a commencé à lancer des projets. Puis des gens d'autres formations, d'autres horizons nous ont rejoints. Même des gens qui ne faisaient pas forcément de théâtre à la base. Et ça a commencé à faire des équipes assez variées qui écrivaient des projets de théâtre. Ça a commencé un peu sur Lyon, qui était l'endroit où on habitait quasiment toutes et tous au début. Et puis petit à petit, on s'est déplacé géographiquement. On a commencé à avoir d'autres territoires de travail. Et puis on a fait des projets un peu plus gros. Et voilà, Mort d'une montagne, c'est un projet un peu pour moi en tout cas, de maturité. Après avoir fait des premières pièces, un projet avec un peu plus de monde, une équipe un peu plus large. Et voilà, la compagnie suit son cours. Elle est plus si jeune que ça, puisqu'elle aura bientôt 10 ans.
La compagnie Les Non-Alignés, pourquoi ce nom?
Eh bien, il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'était qu'on n'était pas aligné sur un seul artiste ou une seule artiste. On était plusieurs personnes à porter des projets, notamment 3 personnes principalement au début. Et puis, en fait, ça tourne relativement de porteur en porteuse de projets. Donc, on n'est pas forcément aligné sur une seule ligne artistique avec une seule façon de faire. De la même manière, dans les projets, il y a des gens qui viennent du milieu de la montagne, du milieu des sciences, des gens qui ne sont pas forcément du théâtre. On n'est pas forcément aligné sur une seule façon de faire théâtre. Il y a un peu plein de lignes qui se croisent. Donc c'était ça, voilà, la multiplicité des lignes artistiques et puis le croisement des regards qui faisait qu'on n'était pas forcément aligné et que tant mieux, quoi. C'est ça la richesse aussi des fois.
Comment se constituent et soutenues aussi les créations que vous proposez? Est-ce que vous produisez des œuvres qui sont, donc vous dites, itinérantes, qui se déroulent en salle? Est-ce qu'il y a aussi un apport, un soutien de collectivité ou de structure pour cette création?
Ouais, pour cette création, c'est d'ailleurs une des premières créations de la compagnie qui est vraiment soutenue, puisque comme toutes les compagnies, on a démarré au début, c'est difficile, on n'a pas grand-chose, pas beaucoup de moyens. Sur le bord d'une montagne, on a été soutenu par, alors je risque d'en oublier, mais par la région, par la DRAC, par le département de l'Isère, par des théâtres aussi en coproduction qui nous ont préacheté le spectacle et invité à répéter chez eux. Donc il y a eu tout un maillage de collectivités et de théâtres et de lieux qui ont mis un petit peu de leur poche, qui ont mis un peu des sous et des subventions et des aides. Et ça a permis de monter le projet dans un certain confort de création, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc c'est aussi à cet endroit-là d'avoir atteint la possibilité de travailler un peu mieux, avec un peu plus de sécurité. J'espère que ça durera, mais voilà. Donc ça, c'est long d'avoir des aides, mais on finit par y arriver.
En début d'émission, nous disions donc avoir à votre actif une dizaine de spectacles. Est-ce que ceux-ci sont à la demande, peuvent être présentés ou représentés encore aujourd'hui?
Ouais. Alors là, en ce moment, on est l'année dernière, on en tournait, je crois, 4 ou 5 encore. On était en tout cas le nez dans 4 ou 5 projets. Là, en ce moment, cette année, on en a tourné 2 ou 3. Donc on en tourne un petit peu moins en ce moment, certains arrivent un petit peu en bout de route, d'autres sont en pause et attendent d'être repris plus tard, et on attend un petit peu de voir quel futur on donne à la compagnie, est-ce qu'on en crée des nouveaux, est-ce que, voilà, Mort d'une montagne pour l'instant il nous occupe bien puisqu'on a beaucoup de dates, donc c'est difficile de créer, de se lancer dans d'autres aventures parce que ça prend du temps de se déplacer dans la région, parfois plus loin en France pour jouer. Donc voilà, il faut regarder sur le site, il y a pas mal de créations. Certaines tournent, d'autres ne tournent plus. Certaines pour toujours, certaines pour l'instant. Donc à voir.
Voilà, je rappelle, il suffit de taper « Compagnie les non-alignés » et on peut trouver facilement la page.
Alors c'est www.lesnonalignés.com. Mais bon, si on tape « Les non-alignés théâtre » sur un moteur de recherche, on trouve tout sans souci, toutes les dates et toutes les infos sur les différentes pièces.
Et puis, c'est organisé dans le cadre Hors les Murs, hein, par le théâtre Les Airs de Die. Et donc, c'est une proposition d'itinérance sur le territoire du Diois. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que vous travaillez auprès du théâtre Les Airs. Hein. Vous avez déjà représenté...
Oui, je crois que c'est le quatrième projet qu'on fait avec Les Airs. C'est effectivement un théâtre avec lequel on est partenaire depuis quelques années. On a appris à se connaître petit à petit, à travailler ensemble, puisqu'on est, on est trois personnes de la compagnie basée maintenant dans le Diois. Donc il y a des liens assez forts qui se sont créés, donc qui ont occasionné plein de partenariats, plein d'aventures ensemble. Et là, de partir avec le théâtre hors les murs et d'aller en itinérance dans les villages du Diois, c'est vraiment super. Avec ce spectacle, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, donc on est ravis.
Pour ce qui est de la vente de billets, il y a la possibilité par les services du théâtre Les Airs, hein, via son site internet ou par son bureau qui se trouve rue du Marché à Die. Est-ce qu'il y a possibilité d'acheter aussi son billet sur place directement?
Oui, bien sûr, on peut venir directement sur les lieux. Je ne sais même pas s'il y a des réservations possibles, pour être franc sur ce spectacle. Je n'ai pas fait exactement attention, mais je sais qu'on peut venir à la dernière minute. Dans les lieux, et puis on s'arrangera pour essayer de jouer pour tout le monde, hein, dans tous les cas.
Quelle perspective envisagez-vous pour la compagnie, les non-alignés? Il y a ces spectacles, mais vous en avez d'autres en préparation?
Eh ben, on y réfléchit en ce moment, on réfléchit un petit peu à l'avenir de la compagnie, aux futures créations. Là, comme je disais, on est très très pris par ce spectacle. On attend un petit peu de voir comment on en sort dans quelques mois, quoi, quand on aura passé le gros des dates. Pour l'instant, c'est principalement de la tournée. Pas encore de création en route, mais ça pourrait venir.
Une tournée qui se situe au niveau national alors vous optez sur des cadres plutôt montagneux?
On est beaucoup sur des dates en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, avec pas mal de dates dans les massifs, mais on ne refuse pas du tout le national, donc... On commence à sortir petit à petit, on va aller en Ariège, on va aller en région parisienne, on va aller peut-être dans les Pyrénées aussi l'année prochaine. Donc petit à petit, on commence à sortir de la région, à jouer un peu plus loin. On va va jouer en PACA aussi. Enfin, il y a des dates un petit peu partout. Le projet voyage de plus en plus. Enfin, aller en Suisse. Voilà, donc c'est chouette. Ça permet de. Et mais on revient toujours au moment des beaux jours, l'été, comme ça, dans les Alpes. Refaire des tournées légères, sans le décor, où on randonne la journée, on joue le soir, on va dans les refuges, on essaie de garder toujours cette, j'allais dire, hygiène de travail, mais ce retour aux sources, dès que le temps le permet, pour revenir à la simplicité, au rapport le plus simple, pas forcément avec des théâtres, mais au plus près des gens et au plus près de publics, parfois, qui ne vont jamais au théâtre. Donc le spectacle permet ça, quoi, de se déplacer sur le terrain.
Avant et après le spectacle, il y a un moment de convivialité, j'imagine ?
Oh bah j'espère bien, oui. On va essayer de boire des coups, oui.
Une proposition de buvette, donc ?
Alors ça, je ne sais pas. C'est le théâtre qui... Donc je ne voudrais pas m'avancer. J'espère qu'on pourra boire un coup. Je pense que oui, parce qu'il y a plusieurs lieux où c'est coporté avec des associations du coin. Donc c'est quasiment sûr que oui. Après, est-ce qu'il y aura buvette tous les soirs ? On peut parier qu'on va partir là-dessus. Ouais.
Jérôme Cochet, en tout cas, je te remercie d'être venu sur RDVOIX.
Avec plaisir, oui.
De la mort d'une montagne donc, qui se joue sur le Divois du 14, c'est-à-dire hier soir, depuis Lussac-Croix-Haute, ensuite le 15 à Valdrome, le 16 à Saint-Agnan sur le Vercors, et pour finir au Claps de Luc-en-Divois le 17 et toutes les dates à 18h30, hormis cette soirée d'hier.
Oui.
Eh bien, bonne soirée et merci beaucoup.
Merci beaucoup, Yves.
Au revoir.
Au revoir.